France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Musée Calvet à Avignon pour les fictions de France Culture. Tous les soirs de cette semaine, nous sommes en direct et en public de 20h à 21h pour une programmation de lecture et de création radiophonique en résonance avec le Festival d'Avignon. Et c'est justement en écho avec le spectacle de la Cour d'honneur, un spectacle de Julien Gosselin intitulé Mal d'Aurore, que nous avons imaginé la lecture des chants de Mal d'Aurore de Lautréamont que vous allez entendre maintenant. Un mystère enveloppe la vie et l'œuvre d'Isidore Ducasse, qui écrivit à l'âge de 23 ans, entre 1868 et 1869, sous le pseudonyme de Comte de Lautréamont, ses chants de Mal d'Aurore. Au fil de ce long poème en prose, on suit l'itinéraire de Mal d'Aurore, un personnage mystérieux, pervers et maléfique, qui renie Dieu et la morale. Nous accueillons sur scène le comédien Michel Esco et le musicien Franck Vigroux. Cette soirée est réalisée en direct et en public par Cédric Ossier. Très bonne soirée à toutes et à tous.
Plut au ciel que le lecteur, enhardi, est devenu momentanément féroce, comme ce qu'il lit, trouve, sans se désorienter, son chemin abrupt et sauvage, à travers les marécages désolés de ces pages sombres et pleines de poison. Car à moins qu'il n'apporte dans sa lecture une logique rigoureuse et une tension d'esprit égale au moins à sa défiance, les émanations mortelles de ce livre imbiberont son âme comme l'eau le sucre. Il n'est pas bon que tout le monde lise les pages qui vont suivre. Quelques-uns, seuls, savoureront ce fruit amer, sans danger. Par conséquent, âme timide, avant de pénétrer plus loin dans de pareilles landes inexplorées, dirige tes talons en arrière et non en avant. Écoute bien ce que je te dis. Dirige tes talons en arrière et non en avant. Comme les yeux d'un fils qui se détourne respectueusement de la contemplation auguste de la face maternelle, ou plutôt comme un angle à perte de vue de grue frileuse, méditant beaucoup, qui pendant l'hiver vole puissamment à travers le silence, toute voile tendue, vers un point déterminé de l'horizon d'où tout à coup part un vent étrange et fort, précurseur de la tempête. Lecteur, c'est peut-être la haine que tu veux que j'invoque dans le commencement de cet ouvrage. Qui te dit que tu n'en renifleras pas, baigné dans d'innombrables voluptés, tant que tu voudras, avec tes narines orgueilleuses, larges et maigres, en te renversant de ventre, pareil à un requin, dans l'eau, bœuf et noir, comme si tu comprenais l'importance de cet acte et l'importance non moindre de ton appétit légitime, lentement et majestueusement, les rouges émanations. Je t'assure, elles réjouiront les deux trous informes de ton museau hideux, ô monstre. Si toutefois tu t'appliques auparavant à respirer 3000 fois de suite la conscience maudite de l'Éternel. J'établirai dans quelques lignes comment Mal d'Aurore fut bon pendant ses premières années, où il vécut heureux. C'est fait. Il s'aperçut ensuite qu'il était né méchant, fatalité extraordinaire. Il cacha son caractère tant qu'il put pendant un grand nombre d'années, mais à la fin, à cause de cette concentration qui ne lui était pas naturelle. Chaque jour, le sang lui montait à la tête, jusqu'à ce que, ne pouvant plus supporter une pareille vie, il se jeta résolument dans la carrière du mal. Atmosphère douce, qu'il aurait dit. Lorsqu'il embrassait un petit enfant au visage rose, il aurait voulu lui enlever ses joues avec un rasoir. Et il l'aurait fait très souvent, si justice, avec son long cortège de châtiments, ne l'en eût chaque fois empêché. Il n'était pas menteur. Il avouait la vérité et disait qu'il était cruel. Humain, avez-vous entendu ? Il ose le redire avec cette plume qui tremble. Ainsi donc, il est une puissance plus forte que la volonté. Malédiction. La pierre se voudrait soustraire aux lois de la pesanteur ? Impossible. Impossible si le mal voulait s'allier avec le bien. C'est ce que je disais plus haut. Il y en a qui écrivent pour rechercher les applaudissements humains au moyen de nobles qualités du cœur que l'imagination invente ou qu'ils peuvent avoir. Moi, je fais servir mon génie à peindre les délices de la cruauté. Délices non passagères, artificielles, mais qui ont commencé avec l'homme, finiront avec lui. Le génie ne peut-il pas s'allier avec la cruauté dans les résolutions secrètes de la Providence ? Ou, parce qu'on est cruel, ne peut-on pas avoir du génie ? On en verra la preuve dans mes paroles. Il ne tient qu'à vous de m'écouter, si vous le voulez bien. On ne me verra pas à mon heure dernière. J'écris ceci sur mon lit de mort, entouré de prêtres. Je veux mourir, bercé par la vague de la mer tempétueuse, ou debout sur la montagne, les yeux en haut. Non. Je sais que mon anéantissement sera complet. D'ailleurs, je n'aurai pas de grâce à espérer. Qui ouvre la porte de ma chambre funéraire ? J'avais dit que personne n'entra. Qui que vous soyez, éloignez-vous. Mais si vous croyez apercevoir quelques marques de douleur ou de crainte sur mon visage d'hyène, juste de cette comparaison, quoique l'hyène soit plus belle que moi et plus agréable à voir, soyez détrompés. Qu'il s'approche. Nous sommes dans une nuit d'hiver. Alors que les éléments s'entrechoquent de toutes parts, que l'homme a peur, et que l'adolescent médite quelques crimes sur un de ses amis, s'il est ce que je fus dans ma jeunesse, que le vent, dont les sifflements plaintifs attristent l'humanité, depuis que le vent, l'humanité existe, quelques moments avant l'agonie dernière, me porte sur les eaux de ses ailes, à travers le monde, impatient de ma mort. Je jouirai encore en secret des exemples nombreux de la méchanceté humaine. Un frère, sans être vu, aime avoir les actes de ses frères. L'aigle, le corbeau, l'immortel pélican, le canard sauvage, la grue voyageuse, éveillés, grelottant de froid, me verront passer à la lueur des éclairs, spectre horrible et content. Ils ne sauront pas ce que cela signifie. Sur la terre, la vipère, l'œil gros du crapaud, le tigre, l'éléphant. Dans la mer, la baleine, le requin, le marteau, l'informe raie, la dent du phoque polaire se demanderont quelle est cette dérogation à la loi de la nature. L'homme, tremblant, collera son front contre la terre. Au milieu de ses gémissements. Oui, Je vous surpasse tous par ma cruauté innée, cruauté qu'il n'a pas dépendu de moi d'effacer. Est-ce pour ce motif que vous vous montrez devant moi dans cette prosternation? Ou bien est-ce parce que vous me voyez parcourir, phénomène nouveau, comme une comète effrayante, l'espace ensanglanté? Il me tombe une pluie de sang de mon vaste corps, pareil à un nuage noirâtre que pousse l'ouragan devant soi. Ne craignez rien, enfant. Je ne veux pas vous maudire. Le mal que vous m'avez fait est trop grand le mal que je vous ai fait, pour qu'il soit volontaire. Vous autres, vous avez marché dans votre voie, moi, dans la mienne, pareil, toutes les deux perverses, nécessairement, nous avons dû nous rencontrer dans cette similitude de caractère. Le choc qui en est résulté nous a été réciproquement fatal. Alors, les hommes relèveront peu à peu la tête, en reprenant courage pour voir celui qui parle ainsi, allongeant le cou comme l'escargot. Tout à coup, leur visage brûlant, décomposé, montrant les plus terribles passions, grimacera de telle manière que les loups auront peur. Ils se dresseront à la fois comme un ressort immense. Quelles imprécations, quel déchirement de voix! Ils m'ont reconnu. Voilà que les animaux de la terre se réunissent aux hommes, font entendre leurs bizarres clameurs. Plus de haine réciproque, les deux haines sont tournées contre l'ennemi commun. Moi, on se rapproche par un assentiment universel. Vent qui me soutenez, élevez-moi plus haut. Je crains la perfidie. Oui, disparaissons peu à peu de leurs yeux, témoins, une fois de plus, des conséquences des passions, complètement satisfaits. Je te remercie, ô Rhinolof, de m'avoir réveillé avec le mouvement de tes ailes, toi dont le nez est surmonté d'une crête en forme de fer à cheval. Je m'aperçois, en effet, que ce n'était malheureusement qu'une maladie passagère, et je me sens avec dégoût renaître à la vie. Les indices que tu arrivais vers moi pour me sucer le peu de sang qui se trouve dans mon corps, pourquoi cette hypothèse n'est-elle pas la réalité? Ma poésie ne consistera qu'à attaquer par tous les moyens l'homme, cette bête fauve, et le créateur, qui n'aurait pas dû engendrer une pareille vermine. Les volumes s'entasseront sur les volumes jusqu'à la fin de ma vie, et cependant, l'on n'y verra que cette seule idée, toujours présente à ma conscience. Cet enfant qui est assis sur un banc du jardin des Tuileries, comme il est gentil. Un homme, mu par un dessin caché, vient s'asseoir à côté de lui sur le même banc, avec des allures équivoques. Qui est-ce? Je n'ai pas besoin de vous le dire, car vous le reconnaîtrez à sa conversation tortueuse. Écoutons-les. Ne les dérangeons pas. À quoi pensais-tu, enfant? Je pensais au ciel. Il n'est pas nécessaire que tu penses au ciel. C'est déjà assez de penser à la terre. Es-tu fatigué de vivre? Toi qui viens à peine de naître? Non, mais chacun préfère le ciel à la terre. Eh bien, pas moi. Car puisque le ciel a été fait par Dieu ainsi que la terre, sois sûr que tu y rencontreras les mêmes mots qu'ici-bas. Après ta mort, tu ne seras pas récompensé d'après tes mérites. Car si l'on te commet des injustices sur cette terre, comme tu l'éprouveras par expérience plus tard, Il n'y a pas de raison pour que, dans l'autre vie, on ne t'en commette non plus. Ce que tu as de mieux à faire, c'est de ne pas penser à Dieu et de te faire justice toi-même, puisqu'on te la refuse. Si un de tes camarades t'offensait, est-ce que tu ne serais pas heureux de le tuer ? Mais c'est défendu. Ce n'est pas si défendu que tu crois. Il s'agit seulement de ne pas se laisser attraper. La justice qu'apportent les lois ne vaut rien. C'est la jurisprudence de l'offensé qui compte. Si tu détestais un de tes camarades, est-ce que tu ne serais pas malheureux de songer qu'à chaque instant, tu es sa pensée devant tes yeux? C'est vrai. Voilà donc un de tes camarades qui te rendrait malheureux toute ta vie. Car voyant que ta haine n'est que passive, il ne continuera pas moins de se narguer de toi et de te causer du mal impunément. Il n'y a donc qu'un moyen de faire cesser la situation, c'est de se débarrasser de son ennemi. Voilà où je voulais en venir, pour te faire comprendre sur quelle base est fondée la société actuelle. Chacun doit se faire justice lui-même, sinon il n'est qu'un imbécile. Celui qui remporte la victoire sur ses semblables, celui-là est le plus rusé et le plus fort. Est-ce que tu ne voudrais pas un jour dominer tes semblables ? Oui. Oui. Sois donc le plus fort et le plus rusé. Tu es encore trop jeune pour être le plus fort, mais dès aujourd'hui, tu peux employer la ruse, le plus bel instrument des hommes de génie. Lorsque le berger David atteignait au front le géant Goliath d'une pierre lancée par la fronde, est-ce qu'il n'est pas admirable de remarquer que c'est seulement par la ruse que David a vaincu son adversaire et que si, au contraire, il s'était pris à bras le corps, le géant l'aurait écrasé comme une mouche ? Il en est de même pour toi. À guerre ouverte, tu ne pourras jamais vaincre les hommes sur lesquels tu es désireux d'étendre ta volonté. Mais avec la ruse, tu pourras lutter seul contre tous. Tu désires les richesses, les beaux palais et la gloire. Ou m'as-tu trompé quand tu m'as affirmé ces nobles prétentions ? Non. Non, je ne vous trompais pas. Mais je voudrais acquérir ce que je désire par d'autres moyens. Alors tu n'acquériras rien du tout. Les moyens vertueux et bonasses ne mènent à rien. Il faut mettre à l'œuvre des leviers plus énergiques et des trames plus savantes. Avant que tu deviennes célèbre par ta vertu et que tu atteignes le but, cent autres auront le temps de faire des cabrioles par-dessus ton dos et d'arriver au bout de la carrière avant toi, de telle manière qu'il ne s'y trouvera plus de place pour tes idées étroites. Il faut savoir embrasser, avec plus de grandeur, l'horizon du temps présent. N'as-tu jamais entendu parler, par exemple, de la gloire immense qu'apportent les victoires ? Et cependant, les victoires ne se font pas seules. Il faut verser du sang, beaucoup de sang, pour les engendrer et les déposer aux pieds des conquérants. Sans les cadavres et les membres épars que tu aperçois dans la plaine où s'est opéré sagement le carnage, il n'y aurait pas de guerre. Et sans guerre, il n'y aurait pas de victoire. Tu vois que lorsqu'on veut devenir célèbre, il faut se plonger avec grâce dans des fleuves de sang, alimentés par de la chair à canon. Le but excuse le moyen. La première chose pour devenir célèbre et d'avoir de l'argent. Or, comme tu n'en as pas, il faudra assassiner pour en acquérir. Mais comme tu n'es pas assez fort pour manier le poignard, fais-toi voleur en attendant que tes membres aient grossi. Et pour qu'ils grossissent plus vite, je te conseille de faire de la gymnastique deux fois par jour. Une heure le matin, une heure le soir. De cette manière, tu pourras essayer le crime avec un certain succès dès l'âge de 15 ans, au lieu d'atteindre jusqu'à 20. L'amour de la gloire excuse tout et peut-être, plus tard, maître de tes semblables, leur feras-tu presque autant de bien que tu leur as fait du mal au commencement. Maldoror s'aperçoit que le sang bouillonne dans la tête de son jeune interlocuteur. Ses narines sont gonflées et ses lèvres rejettent une légère écume blanche. Il lui tâte le pouls, les pulsations sont précipitées, la fièvre a gagné ce corps délicat. Il craint les suites de ses paroles, il s'esquive le malheureux, contrarié de n'avoir pas pu entretenir cet enfant pendant plus longtemps. Lorsque, dans l'âge mûr, il est si difficile de maîtriser les passions, balancées entre le bien et le mal, qu'est-ce dans un esprit encore plein d'inexpérience? Et quelle somme d'énergie relative ne lui faut-il pas en plus? L'enfant en sera quitte pour garder le lit 3 jours. Plus au ciel que le contact maternel amène la paix dans cette fleur sensible, fragile enveloppe d'une belle âme. Il existe un insecte que les hommes nourrissent à leurs frais. Ils ne lui doivent rien, mais ils le craignent. Celui-ci, qui n'aime pas le vin, mais qui préfère le sang. Si on ne satisfaisait pas à ses besoins légitimes, serait capable, par un pouvoir occulte, de devenir aussi gros qu'un éléphant, d'écraser les hommes comme des épis. Aussi faut-il voir comme on le respecte, comme on l'entoure d'une vénération canine, comme on le place en haute estime au-dessus des animaux de la création. On lui donne la tête pour trône, et lui accroche ses griffes à la racine des cheveux avec dignité. Plus tard, lorsqu'il est gras et qu'il entre dans un âge avancé, en imitant la coutume d'un peuple ancien, on le tue afin de ne pas lui faire sentir les atteintes de la vieillesse. On lui fait des funérailles grandioses, comme à un héros. Et la bière, qui le conduit directement vers le couvercle de la tombe, est portée sur les épaules par les principaux citoyens. Sur la terre humide, que le fossoyeur remue avec sa pelle sagace, on combine des phrases multicolores sur l'immortalité de l'âme, sur le néant de la vie, sur la volonté inexplicable de la providence, et le marbre se referme à jamais sur cette existence laborieusement remplie qui n'est plus qu'un cadavre. La foule se disperse et la nuit ne tarde pas à couvrir de ses ombres les murailles du cimetière. Mais consolez-vous, humains, de sa perte douloureuse. Voici sa famille innombrable qui s'avance et dont il vous a libéralement gratifié afin que votre désespoir fût moins amer et comme adouci par la présence agréable de ces avortons hargneux qui deviendront plus tard de magnifiques poux ornés d'une beauté remarquable, monstres à allure de sage. Il a couvé plusieurs douzaines de chéris avec son aile maternelle sur vos cheveux desséchés par la succion acharnée de ces étrangers redoutables. La période est promptement venue où les œufs ont éclaté. Ne craignez rien. Ils ne tarderont pas à grandir, ces adolescents philosophes, à travers cette vie éphémère. Ils grandiront tellement qu'ils vous le feront sentir, avec leurs griffes et leurs suçoirs. Vous ne savez pas, vous autres, pourquoi ils ne dévorent pas les os de votre tête et qu'ils se contentent d'extraire avec leur pompe la quintessence de votre sang. Attendez un instant, je vais vous le dire. C'est parce qu'ils n'en ont pas la force. Soyez certains que si leur mâchoire était conforme à la mesure de leurs vœux infinis, la cervelle, la rétine des yeux, la colonne vertébrale, tout votre corps y passerait, comme une goutte d'eau. Sur la tête d'un jeune mendiant des rues, observez avec un microscope un pouls qui travaille, vous m'en donnerez des nouvelles. Malheureusement, ils sont petits, ces brigands de la longue chevelure. Ils ne seraient pas bons pour être conscrits, car ils n'ont pas la taille nécessaire exigée par la loi. Ils appartiennent au monde lilliputien de ceux de la courte cuisse, et les aveugles n'hésitent pas à les ranger parmi les infiniment petits. Malheur aux cachalots qui se battraient contre un poux. Il serait dévoré en un clin d'œil, malgré sa taille. Il ne resterait pas la queue pour aller annoncer la nouvelle. L'éléphant se laisse caresser. Le poux, non. Je ne vous conseille pas de tenter cet essai périlleux. Gare à vous, si votre main est poilue, ou que seulement elle soit composée d'os et de chair. C'en est fait de vos doigts. Ils craqueront comme s'ils étaient à la torture et la peau disparaît par un étrange enchantement. Les poux sont incapables de commettre autant de mal que leur imagination en médite. Si vous trouvez un poux dans votre route, passez votre chemin. Et ne lui léchez pas les papilles de la langue. Il vous arriverait quelque accident. Cela s'est vu. N'importe. Je suis déjà content de la quantité de mal qu'il te fait, ô race humaine. Seulement, je voudrais qu'il t'en fît davantage. Ô poux, à la prunelle recroquevillée, tant que les fleuves répandront la pente de leurs eaux dans les abîmes de la mer, tant que les astres graviteront sur le sentier de leur orbite, tant que le vide muet n'aura pas d'horizon, tant que l'humanité déchirera ses propres flancs par des guerres funestes, tant que la justice divine précipitera ses foudres vengeresses sur ce globe égoïste, tant que l'homme méconnaîtra son créateur et se narguera de lui, non sans raison, en y mêlant du mépris, ton règne sera assuré sur l'univers et ta dynastie étendra ses anneaux de siècle en siècle. Je te salue, soleil levant, libérateur céleste, toi, l'ennemi invisible de l'homme. Continue de dire à la saleté de s'unir avec lui dans des embrassements impurs et de lui jurer par des serments non écrits dans la poudre qu'elle restera son amante fidèle jusqu'à l'éternité. Baise de temps en temps la robe de cette grande impudique en mémoire des services importants qu'elle ne manque pas de te rendre. Si elle ne séduisait pas l'homme avec ses mamelles lascives, il est probable que tu ne pourrais pas exister, toi, le produit de cet accouplement raisonnable et conséquent. Ô fils de la saleté, dis à ta mère que si elle délaisse la couche de l'homme, marchant à travers des routes solitaires, seule et sans appui, elle verra son existence compromise. Que ses entrailles, qui t'ont porté 9 mois dans leurs parois parfumées, s'émeuvent un instant à la pensée des dangers que couraient, par suite, leurs tendres fruits, si gentils et si tranquilles, mais déjà froids et féroces. Saleté, reine des empires, conserve aux yeux de ma haine le spectacle de l'accroissement insensible des muscles de ta progéniture affamée. Pour atteindre ce but, tu sais que tu n'as qu'à te coller plus étroitement contre les flancs de l'homme. Tu peux le faire. sans inconvénient pour la pudeur, puisque tous les deux, vous êtes mariés depuis longtemps. Si la terre était couverte de poux, comme de grains de sable, le rivage de la mer, la race humaine serait anéantie, en proie à des douleurs terribles. Quel spectacle! Moi, avec des ailes d'ange, immobile dans les airs, pour le contempler. Je cherchais une âme qui me ressemblât et je ne pouvais pas la trouver. Je fouillais tous les recoins de la terre, ma persévérance était inutile. Cependant, je ne pouvais pas rester seul. Il fallait quelqu'un qui approuvât mon caractère. Il fallait quelqu'un qui eût les mêmes idées que moi. C'était le matin. Le soleil se leva à l'horizon dans toute sa magnificence. Et voilà qu'à mes yeux se lève aussi un jeune homme dont la présence engendrait des fleurs sur son passage. Il s'approcha de moi et me tendant la main, « Je suis venu vers toi, toi qui me cherches, bénissons ce jour heureux. Mais moi, va-t'en, je ne t'ai pas appelé. Je n'ai pas besoin de ton amitié. » C'était le soir. La nuit commençait à étendre la noirceur de son voile sur la nature. Une belle femme, que je ne faisais que distinguer, étendait aussi sur moi son influence enchanteresse et me regardait avec compassion. Cependant, elle n'osait me parler. Je dis, approche-toi de moi, afin que je distingue nettement les traits de ton visage, car la lumière des étoiles n'est pas assez forte pour les éclairer à cette distance. Alors, avec une démarche modeste et les yeux baissés, elle foula l'herbe du gazon en se dirigeant de mon côté. Dès que je la vis, je vois que la bonté et la justice ont fait résidence dans ton cœur. Nous ne pourrions pas vivre ensemble. Maintenant, tu admires ma beauté qui a bouleversé plus d'une. Mais tôt ou tard, tu te repentirais de m'avoir consacré ton amour car tu ne connais pas mon âme. Non que je te sois jamais infidèle, celle qui se livre à moi avec tant d'abandon et de confiance, avec autant de confiance et d'abandon, je me livre à elle. Mais mets-toi-le dans la tête pour ne jamais l'oublier. Les loups et les agneaux ne se regardent pas avec des yeux doux. Que me fallait-il donc à moi qui rejetais avec tant de dégoût ce qu'il y avait de plus beau dans l'humanité? Ce qu'il me fallait, je n'aurais pas su le dire. Je n'étais pas encore habitué à me rendre un compte rigoureux des phénomènes de mon esprit, au moyen des méthodes que recommande la philosophie. La scène entraîne un corps humain. Dans ces circonstances, elle prend des allures solennelles. Le cadavre gonflé se soutient sur les eaux. Il disparaît sous l'arche d'un pont, mais plus loin, on le voit apparaître de nouveau, tournant lentement sur lui-même, comme une roue de moulin, et s'enfonçant par intervalles. Un maître de bateau, à l'aide d'une perche, l'accroche au passage et le ramène à terre. Avant de transporter le corps à la morgue, On le laisse quelque temps sur la berge pour le ramener à la ville. La foule compacte se rassemble autour du corps. Ceux qui ne peuvent pas voir parce qu'ils sont derrière poussent tant qu'ils peuvent ceux qui sont devant. Chacun se dit « ce n'est pas moi qui me serai noyé ». On plaint le jeune homme qui s'est suicidé, on l'admire, mais on ne l'imite pas. Et cependant, lui a trouvé très naturel de se donner la mort, ne jugeant rien sur la terre capable de le contenter et aspirant plus haut. Sa figure est distinguée et ses habits sont riches. A-t-il encore 17 ans ? C'est mourir jeune. La foule paralysée continue de jeter sur lui ses yeux immobiles. Il se fait nuit. Chacun se retire silencieusement. Aucun n'ose renverser le noyé pour lui faire rejeter l'eau qui remplit son corps. On a craint de passer pour sensible et aucun n'a bougé, retranché dans le col de sa chemise. L'un s'en va en sifflotant aigrement une tyrolienne absurde. L'autre fait claquer ses doigts comme des castagnettes. Harcelé par sa pensée sombre, mal d'aurore sur son cheval, passe près de cet endroit avec la vitesse de l'éclair. Il aperçoit le noyé, cela suffit. Aussitôt, il a arrêté son coursier et est descendu de l'étrier. Il soulève le jeune homme sans dégoût et lui fait rejeter l'eau avec abondance. À la pensée que ce corps inerte pourrait revivre sous sa main, il sent son cœur bondir sous cette impression excellente et redouble de courage. Vains efforts, ai-je dit. Et c'est vrai, le cadavre reste inerte et se laisse tourner en tous sens. Il frotte les tempes, il frictionne ce membre-ci, ce membre-là. Il souffle pendant une heure dans la bouche en pressant ses lèvres contre les lèvres de l'inconnu. Il lui semble enfin sentir sous sa main, appliqué contre la poitrine, un léger battement. Le noyé vit. À ce moment suprême, on put remarquer que plusieurs rides disparurent du front du cavalier et le rajeunir de 10 ans. Mais hélas, les rides reviendront, peut-être demain, peut-être aussitôt qu'il se sera éloigné des bords de la Seine. En attendant, le noyé ouvre des yeux ternes et par un sourire blafard remercie son bienfaiteur. Mais il est faible encore et ne peut faire aucun mouvement. Sauver la vie à quelqu'un, que c'est beau! Et comme cette action rachète de fautes, l'homme aux lèvres de bronze, occupé jusque-là à l'arracher de la mort, regarde le jeune homme avec plus d'attention, et ses traits ne lui paraissent pas inconnus. Il se dit qu'entre l'asphyxié aux cheveux blonds et Holzer, il n'y a pas beaucoup de différence. Les voyez-vous? Comme ils s'embrassent avec effusion. N'importe, sans rien dire, il prend son ami qu'il met en croupe et le coursier s'éloigne au galop. Ô toi, Holzer, qui te croyais si raisonnable et si fort, n'as-tu pas vu, par ton exemple même, comme il est difficile dans un accès de désespoir de conserver le sang-froid dont tu te vantes? J'espère que tu ne me causeras plus un pareil chagrin. Et moi, de mon côté, je t'ai promis de ne jamais rattenter à ma vie. C'était une journée de printemps. Les oiseaux répandaient leurs cantiques en gazouillement et les humains, rendus à leurs différents devoirs, se baignaient dans la sainteté de la fatigue. Tout travaillait à sa destinée. Les arbres, les planètes, les squales, tout. Excepté le Créateur. Il était étendu sur la route, les habits déchirés, Sa lèvre inférieure pendait comme un câble somnifère. Ses dents n'étaient pas lavées et la poussière se mêlait aux ondes blondes de ses cheveux. Engourdi par un assoupissement pesant, broyé contre les cailloux, son corps faisait des efforts inutiles pour se relever. Ses forces l'avaient abandonné et il gisait là, faible, comme le ver de terre, impassible, comme l'écorce. Des flots de vin remplissaient les ornières, creusées par les soubresauts nerveux de ses épaules. L'abrutissement au groin de porc le couvrait de ses ailes protectrices et lui jetait un regard amoureux. Ses jambes, aux muscles détendus, balayaient le sol comme deux mâts aveugles. Le sang coulait de ses narines. Dans sa chute, sa figure avait frappé contre un poteau. Il était saoul. Horriblement saoul. Saoul comme une punaise qui a mâché, pendant la nuit, 3 tonneaux de sang. Il remplissait l'écho de paroles incohérentes, que je me garderai de répéter ici. Si l'ivrogne suprême ne se respecte pas, moi, je dois respecter les hommes. Saviez-vous que le Créateur, ce saoul-là, pitié pour cette lèvre, souillée dans les coupes de l'orgie. Le hérisson qui passait lui enfonça ses pointes dans le dos et dit « Ça, pour toi ». Le soleil est à la moitié de sa course. Travaille, fainéant, et ne mange pas le pain des autres. Attends un peu et tu vas voir si j'appelle le cacatoès au bec crochu. Le pivert et la chouette, qui passaient, lui enfoncèrent le bec entier dans le ventre et dirent « Ça, pour toi, que viens-tu faire sur cette terre? Est-ce pour offrir cette lugubre comédie aux animaux? Mais ni la taupe, ni le cassoar, ni le flamand ne t'imiteront, je te le jure !» L'âne, qui passait, lui donna un coup de pied dans la tempe et dit « Ça, pour toi, que t'avais-je fait pour me donner des oreilles si longues? Il n'y a pas jusqu'au grillon qui ne me méprise. » Le crapaud, qui passait, lança un jet de bave sur son front et dit « Ça, pour toi. Si tu ne m'avais fait l'œil si gros et que je t'eusse aperçu dans l'état où je te vois, j'aurais chastement caché la beauté de tes membres sous une pluie de renoncules, de myosotis et de camélias afin que nul te vît. » Le lion, qui passait, inclina sa face royale et dit « Pour moi, je le respecte, quoique sa splendeur nous paraisse pour le moins éclipsée. Vous autres, qui faites les orgueilleux et n'êtes que des lâches, puisque vous l'avez attaqué quand il dormait, seriez-vous content si, mis à sa place, vous supportiez, de la part des passants, les injures que vous ne lui avez pas épargnées ? L'homme qui passait s'arrêta devant le Créateur méconnu et aux applaudissements du morpion et de la vipère, fianta pendant 3 jours sur son visage auguste. Malheur à l'homme à cause de cette injure, car il n'a pas respecté l'ennemi, étendu dans le mélange de boue, de sang et de vin, sans défense et presque inanimé. Alors, le Dieu souverain, réveillé enfin par toutes ces insultes mesquines, se releva comme il put, en chancelant, alla s'asseoir sur une pierre, les bras pendants comme les 2 testicules du poitrinaire, et jeta un regard vitreux, sans flamme, sur la nature entière qui lui appartenait. Ô humains, vous êtes les enfants terribles, mais je vous en supplie, épargnons cette grande existence qui n'a pas encore fini de cuver la liqueur immonde et n'ayant pas conservé assez de force pour se tenir droite, est retombée lourdement sur cette roche où elle s'est assise comme un voyageur. Oh, vous ne savez, vous ne saurez jamais comme de tenir constamment les rênes de l'univers devient une chose difficile. Le sang monte quelquefois à la tête quand on s'applique à tirer du néant une dernière comète avec une nouvelle race d'esprit. L'intelligence, trop remuée de fond en comble, se retire comme un vaincu et peut tomber une fois dans la vie dans les égarements dont vous avez été témoin. Je suis sale. Les poux me rongent. Les pourceaux, quand ils me regardent, vomissent. Les croûtes et les escarres de la lèpre ont écaillé ma peau, couverte de pus jaunâtre. Je ne connais pas l'eau des fleuves ni la rosée des nuages. Sur ma nuque, comme sur un fumier, pousse un énorme champignon aux pédoncules ombellifères. Assis sur un meuble informe, je n'ai pas bougé mes membres depuis 4 siècles. Mes pieds ont pris racine dans le sol et composent jusqu'à mon ventre une sorte de végétation vivace, remplie d'ignobles parasites qui ne dérivent pas encore de la plante et qui n'est plus de la chair. Cependant, mon cœur bat. Mais comment battrait-il si la pourriture et les exhalaisons de mon cadavre, je n'ose pas dire corps, ne le nourrissaient abondamment? Sous mon aisselle gauche, une famille de crapauds a pris résidence, et quand l'un d'eux remue, il me fait des chatouilles. Prenez garde qu'il ne s'en échappe un et ne vienne gratter avec sa bouche le dedans de votre oreille, il serait ensuite capable d'entrer dans votre cerveau. Sous mon aisselle droite, il y a un caméléon qui leur fait une chasse perpétuelle afin de ne pas mourir de faim. Il faut que chacun vive. Mais quand un parti déjoue complètement les ruses de l'autre, il ne trouve rien de mieux que de ne pas se gêner et suce la graisse délicate qui couvre mes côtes. J'y suis habitué. Une vipère méchante a dévoré ma verge et a pris sa place. Elle m'a rendu eunuque, c'est infâme. Oh, si j'avais pu me défendre avec mes bras paralysés, mais je crois plutôt qu'ils se sont changés en bûches. Quoi qu'il en soit, il importe de constater que le sang ne vient plus y promener sa rougeur. Deux petits hérissons qui ne croissent plus ont jeté à un chien qui n'a pas refusé l'intérieur de mes testicules. L'épiderme soigneusement lavé, ils ont logé dedans. L'anus a été intercepté par un crabe. Encouragé par mon inertie, il garde l'entrée avec ses pinces et me fait beaucoup de mal. Deux méduses ont franchi les mers, immédiatement alléchées par un espoir qui ne fut pas trompé. Elles ont regardé avec attention les deux parties charnues qui forment le derrière humain, et se cramponnant à leur galbe convexe, elles les ont tellement écrasées par une pression constante que les deux morceaux de chair ont disparu, tandis qu'il est resté deux monstres sortis du royaume de la viscosité, égaux par la couleur, la forme et la férocité. Ne parlez pas de la colonne vertébrale, puisque c'est un glaive. Oui ? Oui, je n'y faisais pas attention, votre demande est juste. Vous désirez savoir, n'est-ce pas, comment il se trouve implanté verticalement dans mes reins. Moi-même, je ne me le rappelle pas très clairement. Cependant, si je me décide à prendre pour un souvenir ce qui n'est peut-être qu'un rêve, sachez que l'homme, quand il a su que j'avais fait vœu de vivre avec la maladie et l'immobilité jusqu'à ce que j'eusse vaincu le Seigneur, marcha derrière moi, sur la pointe des pieds, mais non pas si doucement que je ne l'entendisse. Je ne perçus plus rien pendant un instant qui ne fut pas long. Ce poignard aigu s'enfonça jusqu'aux manches, entre les deux épaules du taureau des fêtes, et son ossature frissonna comme un tremblement de terre. La lame adhère si fortement au corps que personne jusqu'ici n'a pu l'extraire. Les athlètes, les mécaniciens, les philosophes, les médecins ont essayé tour à tour les moyens les plus divers. Ils ne savaient pas que le mal qu'a fait l'homme ne peut plus se défaire. J'ai pardonné à la profondeur de leur ignorance native et je les ai salués des paupières de mes yeux. Voyageur, quand tu passeras près de moi, ne m'adresse pas, je t'en supplie, le moindre mot de consolation. Tu affaiblirais mon courage. Va-t'en, que je ne t'inspire aucune piété. La haine est plus bizarre que tu ne le penses. Sa conduite est inexplicable. Comme l'apparence brisée d'un bâton enfoncé dans l'eau. Tel que tu me vois, je puis encore faire des excursions jusqu'aux murailles du ciel. À la tête d'une légion d'assassins. Et revenir prendre cette posture pour méditer de nouveau sur les nobles projets de la vengeance. Adieu, je ne te retarderai pas davantage. Et pour t'instruire et te préserver, réfléchis au sort fatal qui m'a conduit à la révolte, quand peut-être j'étais né bon. Tu raconteras à ton fils ce que tu as vu. Et le prenant par la main, fais-lui admirer la beauté des étoiles et les merveilles de l'univers, le nid du rouge-gorge et les temples du Seigneur. Tu seras étonné de le voir si docile au conseil de la paternité et tu le récompenseras par un sourire. Mais quand il apprendra qu'il n'est pas observé, jette les yeux sur lui et tu le verras cracher sa bave sur la vertu. Il t'a trompé. C'est lui qui est descendu de la race humaine, mais il ne te trompera plus. Tu sauras désormais ce qu'il deviendra. Oh, père infortuné, prépare pour accompagner les pas de ta vieillesse l'échafaud ineffaçable qui tranchera la tête d'un criminel précoce et la douleur qui te montrera le chemin qui conduit à la tombe. Que le lecteur ne se fâche pas contre moi, si ma prose n'a pas le bonheur de lui plaire. Tu soutiens que mes idées sont au moins singulières. Ce que tu dis là, homme respectable, est la vérité, mais une vérité partielle. Or, quelle source abondante d'erreurs et de méprises n'est pas toute vérité partielle? Ne fais pas attention à la manière bizarre dont je chante chacune de ces strophes, mais sois persuadé que les accents fondamentaux de la poésie n'en conservent pas moins leur intrinsèque droit sur mon intelligence. N'est-il pas vrai, mon ami, que jusqu'à un certain point, ta sympathie est acquise à mes chants? Oh. Qui t'empêche de franchir les autres degrés? La frontière entre ton goût et le mien est invisible, tu ne pourras jamais la saisir. Preuve que cette frontière elle-même n'existe pas. Réfléchis donc alors, je ne fais ici qu'effleurer la question. Il ne serait pas impossible que tu eusses signé un traité d'alliance avec l'obstination? Cette agréable fille du mulet, source si riche d'intolérance. Si je ne savais pas que tu n'étais pas un sot, je ne te ferais pas un semblable reproche. Je parle par expérience, sans venir jouer ici le rôle de provocateur. Et de même que les rotifères et les tardigrades peuvent être chauffés à une température voisine de l'ébullition sans perdre nécessairement leur vitalité, il en sera de même pour toi si tu sais assimiler avec précaution l'âcre sérosité suppurative qui se dégage avec lenteur de l'agacement que causent mes intéressantes élucubrations. Et quoi ? N'est-on pas parvenu à greffer sur le dos d'un rat vivant la queue détachée du corps d'un autre rat? Essaie donc pareillement de transporter dans ton imagination les diverses modifications de ma raison cadavérique. Mais sois prudent. À l'heure que j'écris, de nouveaux frissons parcourent l'atmosphère intellectuelle. Il ne s'agit que d'avoir le courage de les regarder en face. Pourquoi fais-tu cette grimace? Et même, tu l'accompagnes d'un geste que l'on ne pourrait imiter qu'après un long apprentissage. Sois persuadé que l'habitude est nécessaire en tout. Et puisque la répulsion instinctive qui s'était déclarée dès les premières pages a notablement diminué de profondeur en raison inverse de l'application à la lecture, comme un furoncle qu'on incise, il faut espérer, quoi que ta tête soit encore malade, que ta guérison ne tardera certainement pas à rentrer dans sa dernière période. Pour moi, il est indubitable que tu vogues déjà en pleine convalescence. Cependant, ta figure est restée bien maigre, hélas. Mais courage! Il y a en toi un esprit peu commun. Je t'aime et je ne désespère pas de ta complète délivrance, pourvu que tu absorbes quelques substances médicamenteuses qui ne feront que hâter la disparition des derniers symptômes du mal. Comme nourriture astringente et tonique, tu arracheras d'abord les bras de ta mère, si elle existe encore. Tu les dépèceras en petits morceaux et tu les mangeras ensuite, en un seul jour, sans qu'aucun trait de ta figure ne trahisse ton émotion. Si ta mère était trop vieille, choisis un autre sujet chirurgique, plus jeune et plus frais, sur lequel la rugine aura prise et dont les autarciens, quand ils marchent, prennent aisément un point d'appui pour faire la bascule, ta sœur, par exemple. Je ne puis m'empêcher de plaindre son sort et je ne suis pas de ceux dans lesquels un enthousiasme très froid ne fait qu'affecter la bonté. Toi et moi, nous verserons pour elle, pour cette vierge aimée. Mais je n'ai pas de preuves pour établir qu'elle soit vierge. Deux larmes incoercibles, deux larmes de plomb. Ce sera tout. La potion la plus lénitive que je te conseille est un bassin plein d'un pu blénorragique à noyaux, dans lequel on aura préalablement dissous un kyste pileux de l'ovaire, un chancre folliculaire, un prépuce enflammé, renversé en arrière du gland par un parenphymosis, et trois limaces rouges. Si tu suis mes ordonnances, comme quand un pouls ressèque avec ses baisers la racine d'un cheveu, ma poésie te recevra à bras ouverts.
Les chants de Maldoror de Lautréamont avec Michel Escaut et le musicien Franck Villeroux. Prise de son montage mixage Pierrick Charles et Antoine Espel, sonorisation Romain Lenoir, réalisation Cédric Ossire. Générique complet à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France.